parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Confidence commence maintenant. Il est 21h. 21h chez vous, 21h chez nous. J'espère que vous allez bien. Voilà, installez-vous confortablement sous vos couettes ou dans vos fauteuils avec une petite verveine, hein, qui fait du bien le soir. Voilà, et écoutez Beurre FM. Voilà, une bonne idée. Alors, les sujets, je n'ai plus de sujets à vous proposer. Il n'y a plus rien dans le stock. Non, je plaisante. Non, on a abordé beaucoup de choses ces derniers temps. On s'est dit beaucoup, beaucoup de belles choses. Et, ben, écoutez, si vous voulez, on peut, voilà, on peut piocher. Voilà, dans les idées de ces derniers jours. Sinon, eh bien, ma foi, je vous invite à venir vider votre cœur, un cœur trop plein parfois, venir demander quelques conseils qui vous seront donnés très gentiment, hein, à travers les expériences de nos amis qui vous écoutent. Bonsoir Zach. Zach vous fait un petit bonsoir comme ça de la main, il réalise l'émission et il vous répond également au standard 01 53 48 3000, on y go. Allez, remplissez-moi ce standard, ok? Je vous fais confiance, hein, je vous attends. Mais avant, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjibukoum Chanchalin, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous, une pensée également. Personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit, une pensée également. Personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Hier, vous étiez, ma foi, très nombreux en fin d'émission, oui, à vouloir intervenir. Et moi, j'avais mal au cœur pour vous, vraiment. Et non, c'était la fin. Ben oui. Bon, ben écoutez, venez à partir de maintenant. Vous avez du temps, on a tout le temps. Vraiment, on a 2 heures devant nous. Donc venez vous exprimer si vous n'avez pas pu le faire hier soir. 01 53 48 3000. On a Nassera qui nous appelle de Paris. Bonsoir Nassera.
Oui, bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Nassera. Ah,
merci.
Comment vas-tu?
Ça va, j'ai tenu à appeler en premier.
C'est parfait, c'est très bien.
Voilà, bravo. Parce que aujourd'hui particulièrement, j'ai une demande particulière.
Ah.
Voilà.
Je
on est le 4 octobre. Je peux y aller, là? Je peux vous
dire?
Oui,
je t'écoute, tout le monde t'écoute.
Voilà, donc aujourd'hui, 4 octobre, je vous appelle pour rendre hommage à ma maman, qui est décédée le 4 octobre 2021, à 22h30.
L'Ayahma Oussalir.
Voilà.
Paix à son âme.
Merci.
Oui.
Et je ne vais pas trop tarder, parce que je risque de m'effondrer.
Oui, je l'entends bien, mais tu as bien fait d'appeler. Et de là où elle est, je pense qu'elle est, moi je crois, j'y crois fortement, de là où elle est, elle entend l'hommage que tu lui passes ce soir et avec beaucoup d'émotion dans la voix. Si c'est pas trop indiscret, alors on pense souvent au Covid, hein, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle.
Non, malheureusement, elle avait 89 ans et même si diraient beaucoup de gens, 89 ans, elle a vécu. Donc quand il s'agit de sa maman, on a envie de la voir vivre éternellement.
Bien sûr.
Voilà, donc c'était une brave femme.
Mais oui.
Une femme qui a beaucoup souffert dans sa jeunesse.
Oui.
Qui a beaucoup donné et qui, malgré la maladie, malgré les années, a toujours été très jovial. C'est cet esprit-là que j'aimerais saluer, en fait. Et voilà, qu'on se rappelle tous.
Oui. Parle-nous un peu de ta maman, justement.
Oui, ma maman, en fait, elle a vécu quand même... elle a vécu une jeunesse assez difficile... elle est pleine de sacrifices. Elle a été mariée de force. Ses parents l'ont obligée à épouser son beau-frère.
Son
beau-frère après le décès de sa sœur pour ne pas
ah oui
pour ne pas laisser les trois orphelines voilà, tomber dans les bras d'une étrangère.
Oui, oui.
Donc, voilà.
Un sacrifice.
Elle a subi. Ouais. Voilà, elle a subi. Elle n'a pas voulu. Pour épouser mon papa, que Dieu lui pardonne, qui était assez nerveux, difficile. Elle en a bavé.
Oui.
Elle en a bavé avec lui. Bismahlo.
Oui.
Elle en a bavé et puis, pour tout couronner, enfin, elle est veuve à 32 ans.
Oh mon Dieu.
Voilà, avec 7 enfants, 3 nièces et belles-filles en même temps.
Oui.
Voilà, donc.
En fait, les filles de ton papa, c'était cousines, étaient demi-sœurs en même temps.
Oui, exactement, c'est mes sœurs. En fait, on n'a jamais fait la différence.
Ça se faisait fréquemment, hein, à l'époque.
Oui, tout à fait.
J'ai entendu aussi beaucoup d'histoires qui ressemblent un peu à la tienne, enfin celle de ta maman. C'est, tu sais, pendant la guerre, il y avait des décès, bien évidemment, hein, les hommes mouraient en guerre pendant la guerre d'Algérie, et les femmes, les veuves des combattants, hein,
oui,
des chouhadas,
oui, hein, oui,
eh bien, elles épousaient, enfin, c'était pas leur
les
choix.
Hein, elles épousaient, voilà. C'est connu, ça,
donc, les beaux-frères, le frère de leur mari, voilà, ça se faisait couramment. Mais ça se fait dans la religion, hein, dans l'islam. Hein.
Parce qu'il y a des religions,
voilà, dans d'autres cultures.
Et ça se fait aussi que les femmes qui décèdent, que les sœurs reprennent les enfants.
Oui.
C'est très, très fréquent.
Tu sais pourquoi ils le font?
C'était un peu difficile.
C'est difficile pour la femme, mais je me suis renseignée là-dessus. C'est pour que les enfants, c'est pour protéger les enfants.
Oui, tout à fait.
Je sais pas si je peux mettre mon petit grain de sel, mais je trouve, parce que je l'ai connu au sein de ma famille, eh bien, je trouve que, pardon, parce que l'homme en question était décédé au front, hein, voilà, très jeune.
Oui,
donc, il avait une petite fille, et donc la femme, la maman de cet homme qui est décédé, a voulu qu'elle épouse son beau-frère, le frère de son mari.
Oui.
Eh bien, cette femme ne voulait pas, parce que, bon, et puis bon, finalement, elle a fini par accepter pour garder sa fille. Eh bien, la fille dit qu'elle était heureuse que ça se soit passé comme ça, parce qu'elle est restée dans la famille.
Oui, oui, ça se passe.
Tu vois, c'est pas mal, parce que ça protège les enfants.
Oui, c'est pas mal, sauf que parfois, voilà.
C'est difficile pour la femme, hein, l'épouse, bien sûr.
Oui, c'est difficile, surtout quand ça se passe mal après.
Quand ça se passe mal, voilà, c'est ça.
Bon, après, le sacrifice étant tellement important, voilà, et nos femmes, nos mamans, elles s'habituent, elles acceptent avec le temps, et puis, voilà, c'est voilà, elle récupère ses petites nièces, elle fait en sorte qu'elle ne souffre pas. Bon,
c'est
malheureusement,
ça.
Le destin a fait que le papa est parti assez vite, et que, voilà. Donc c'est une vie pleine de sacrifices.
De sacrifices.
Oui, tout à fait, une vie difficile, une veuve qui n'a jamais mis les pieds à l'école et pourtant qui nous disait dès qu'on avait des demandes particulières, ben non, elle n'a jamais été à l'école, mais elle a toujours veillé à ce que tous ses enfants fassent des études, réussissent. Voilà, donc je me rappelle qu'elle nous disait je vous donne de quoi acheter des livres, des cahiers, des stylos, mais on n'avait pas intérêt à demander de choses pas importantes.
Oui, des choses un peu superficielles.
Voilà, les études pour elle, c'était très important. Et ben, heureusement, elle a réussi.
Ouais.
Elle a quand même une bonne quarantaine de petits-enfants et...
Ah oui,
on est assez
beau.
Nombreux. Elle a toujours été très aimée. Tout le monde l'appelait Mamani. Très aimée par les enfants, les petits-enfants, les beaux-frères, les beaux-enfants. C'est une famille très, très élargie. Et son départ nous laisse à tout le monde un vide.
Oui, bien sûr. Mais oui.
Voilà.
Elle est dans vos cœurs. Et dans les souvenirs.
Moi, depuis un an, il n'y a pas un jour où je ne pleure pas. Il n'y a pas un jour où je pense pas à elle.
Oui.
C'est assez délicat, c'est assez difficile.
C'est très difficile.
On ne se remet jamais de la perte de sa maman. C'est pour ça que je dis aux gens, faites attention. Ne laissez pas la vie vous emmener, vous emporter. Ne laissez pas la vie vous faire oublier vos parents. Les regrets sont... Voilà, heureusement que je n'ai pas de regrets, que je n'ai jamais eu de voilà, je me suis... j'ai jamais pensé aller en vacances ailleurs. Mes vacances se déroulent toujours auprès d'elle. Je n'ai... Voilà, mes enfants me disent on se sacrifie, mais je dis mais quel beau sacrifice, en fait. Et si ça aurait pu durer toute la vie, j'aurais fait la même chose.
Hélas.
Voilà.
Hélas, on n'est pas là pour durer, c'est ça.
Oui, malheureusement, voilà, tout a une fin et elle a eu une belle mort. Elle n'a pas souffert, elle a eu une belle mort parce qu'on est allé dans son sommeil.
Voilà. C'est ce que tout le monde souhaite, partir dans son sommeil, mais. C'est
malgré
magnifique.
Les graves problèmes de santé, quand même.
Oui.
Et prise en charge plutôt très incertaine.
Oui.
Très approximative, des prises en charge approximatives, malheureusement.
Mais elle est partie entourée. C'est ça qui est important.
Oui, j'ai eu la chance de passer avec elle un mois et 17 jours. Auprès d'elle, et je suis rentrée dans l'idée de repartir pour être là lors d'une intervention qui était programmée. Et je suis arrivée le 29 septembre, et dès le 2 septembre, dès le 1er septembre, j'étais au téléphone parce que je me suis rendu compte que à sa voix, ça n'allait pas.
Oui.
Et j'ai passé des nuits, j'ai passé la nuit entière au téléphone, en direct à l'hôpital, là-bas, au téléphone avec les médecins, et voilà. Et j'aimerais remercier, je ne connais pas son nom, mais j'aimerais remercier un monsieur d'Eraingerie qui a tout fait pour que je parte ce juillet 2021. Je lui serai toujours reconnaissant toute ma vie. Qu'il a compris, il a tout fait pour me faire embarquer au mois de juillet.
Oui.
Et je remercierai jamais assez le chef d'escale d'Air France, de Roissy Charles de Gaulle, qui le 4 octobre au matin, je suis partie au bonheur de la chance voir si on pouvait m'embarquer, parce que je suis venue le 29 et le 4 il fallait que je reparte parce qu'elle était en réanimation. Et du coup ce monsieur m'a écoutée et a tout fait pour me faire embarquer, et je suis rentrée dans l'avion en étant contente d'avoir réussi à embarquer. Et j'ai retrouvé mon frère qui était dans le même avion, qui lui avait son billet, avait sa réservation. Je l'ai regardé, j'étais toute contente. Je pensais qu'il allait être content parce qu'il allait mourir, on allait partir ensemble.
Oui.
Et finalement, il m'a accueilli avec les yeux rouges, avec des larmes. Et j'ai compris qu'elle s'en était allée. Et je l'ai pas vu le 4 au soir. Le 4, je ne l'ai pas vue. Elle est décédée le 4 à 22h30. Et nous, on est partis plutôt le 5 au matin. Voilà. J'ai réussi à quand même partir et à la voir.
C'est
donc
important.
Je l'ai laissée dans son lit le 29 septembre et je l'ai retrouvée le 5 octobre à la morgue.
Oui.
Voilà.
Voilà,
c'est pour ça que c'est très très important. On se plaint, souvent les gens se plaignent, on s'occupe de nos parents, on n'a pas le temps, on ne vit pas, les gens se plaignent, les gens râlent tout le temps.
Mais oui.
Mais moi je dis aux gens, faites ce que vous avez à faire, profitez d'eux au maximum, parce que quand ils sont vents, moi j'ai passé toute l'année à me dire, à maudire le Covid et à maudire les années de Covid où j'ai pas pu rentrer, je n'ai pas pu rentrer, j'ai pas pu lui faire ses examens comme il faut parce qu'il y avait qu'avec moi qu'elle acceptait les choses, c'est très difficile. Et je ne sais pas si je peux vous faire une demande particulière.
Mais oui, en fait,
moi, la chanson qui la représente le plus, c'est la chanson de Charles Aznavour, La Mama.
La Mama.
Et depuis toujours, dès que j'entends cette chanson, dès que je l'écoute, pour moi, je vois ma mère morte. Et je ne peux pas tenir le coup, je ne peux pas l'écouter jusqu'au bout. Et le jour de son décès, c'est la seule chanson qui me passait par la tête. Et qui, voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez me la passer aujourd'hui pour lui rendre hommage, parce que le décès de ma mère, c'est exactement la même image que la maman.
Je peux te mettre en attente deux petites minutes. Ne pars pas, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Charles Aznavour, paix à son âme, la mama.
Ouais, merci
spécial
beaucoup.
Pour Nasera.
Merci infiniment.
C'est normal.
Merci
ta maman.
Comment elle la représente tellement, cette chanson.
Mais oui, mais je pensais à elle. Je pensais à elle maintenant en écoutant les paroles.
Oui.
Je pensais que
mais
jamais tu ne quitteras.
Exactement ça. Elle a toujours été le centre de tout, oui. De toute la famille. Oui. Et voilà, imprégnée de joie. Elle a toujours vécu dans la joie. Des fois, on avait peur pour elle qu'en regardant le foot, en regardant les matchs de l'Algérie, qu'elle fasse un arrêt cardiaque tellement elle était dans le regarder le foot. Elle rigolait, elle blaguait, elle chantait. Même quand elle est malade, elle arrive à faire des blagues. Je me souviens d'un chirurgien qui l'a opéré lors de sa fracture du col du fémur. Il m'avait dit, ne vous inquiétez pas pour votre maman. Il m'a dit,
mon Dieu, la Ibarik.
Franchement, j'aimerais tellement qu'on garde d'elle.
Il
y avait tellement de qualité.
Oui.
Voilà,
mais c'est ce qui nous laisse, tu sais, c'est les souvenirs. Oui. Parce qu'on stocke les souvenirs, on a un stock, heureusement. C'est ça qui nous fait tenir dans ce monde.
Oui,
parce qu'on puise justement dans nos souvenirs pour pouvoir tenir. Sinon, ce serait une catastrophe. Elle s'est prénommée comment, ta maman?
Dawiya.
Dawiya. Eh bien, Dawik, c'est ta lumière.
Tout à fait. Sa bougie, elle est allumée à côté de moi.
Oh, c'est magnifique.
Voilà.
Là,
je te remercie infiniment, Vanessa.
Je t'embrasse fort, Nasera. De tout mon cœur, vraiment.
Merci.
Courage. Rabbi Dubux Bar, Inch'Allah.
C'est gentil, merci. Et que tout le monde s'occupe de sa maman.
Merci pour ce beau message.
Tant qu'on peut, tant qu'on peut, tant qu'on peut. Voilà.
Merci.
Allez, merci. Et puis, bonne émission. Merci beaucoup.
C'est gentil. Bon courage.
Ça
à bientôt.
Énormément.
Bisous. Au revoir, ma chérie. Aïe, aïe, aïe. Dur, hein, de reprendre après tant d'émotions. Moi, j'en ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Et j'imagine la douleur que traverse Nasera. Un jour, un an, aujourd'hui. La vie, elle a raison, Nasera. C'est un message. Et je la remercie d'avoir appelé ce soir. C'est ça, les rappels. C'est un beau rappel. Rappelez-vous que la vie ne dure pas, que tout est éphémère, que rien ne dure et qu'il faut profiter de ce qu'on aime. Chaque instant, c'est très important. Il faut se le rappeler à tout moment. Vraiment. C'est ce qu'on a de plus important dans cette vie. Parce que cette vie, c'est un rêve. Tout à l'heure, je pensais à tout ça parce qu'il m'arrive souvent dans la journée un petit peu de réfléchir à pourquoi on est là, et ce qui va se passer après, et d'où on vient, etc. Enfin, tous les jours, j'ai au moins une fois dans la journée ce genre de pensée. Et aujourd'hui, j'ai pensé à une chose qui me revient fréquemment. Je ne sais pas, c'est peut-être pour moi, c'est tellement fort, ça revient, c'est lancinant, hein, vraiment. Ça revient tellement souvent, et je le ressens tellement fort au fond de moi, que je me dis, c'est peut-être la vérité, peut-être là. Je me dis que nous sommes peut-être dans un rêve, que nous sommes dans un sommeil profond et dans un rêve. Parce que, regardez par exemple, je sais pas, cette nuit par exemple, j'ai fait un rêve, et ce rêve, il était très fort, comme si c'était la réalité, avec des détails, mais vraiment, hein, des détails très importants, chaque détail, chaque couleur, chaque bruit, chaque son, chaque personne, les regards, tout était très fort. Alors je me dis, en me réveillant ce matin, j'ai pensé à ça avant de me lever. Je me suis dit, eh bien, peut-être que nous sommes aussi dans un rêve, parce que il y a des rêves qui sont tellement puissants, tellement forts, qu'on a l'impression qu'on était dans la réalité. Et là, peut-être qu'on pense être dans la réalité, une réalité, mais nous sommes dans un sommeil profond et nous rêvons. Je crois aussi un peu en ça. Je pense que on est dans un rêve, on est ailleurs et on rêve. Voilà, tout simplement. C'est un rêve qui semble long, parce que tous les rêves semblent longs. Le temps s'arrête quand on dort la nuit, c'est vrai. Regardez, quand vous dormez, vous rêvez. Y a pas de temps. Le temps n'est pas limité. Vous ne comptez pas le temps, vous avez l'impression de vivre tellement de choses, tellement d'événements. Vous passez d'une histoire à une autre, d'un lieu à un autre, et vous rencontrez des gens, etc. Ça semble long, nos rêves. C'est vrai, c'est toute une histoire, les mille et une nuits. Eh bien, là, dans cette vie, tout nous semble long. Mais en réalité, peut-être que c'est un rêve, tout simplement. Moi, j'ai envie d'y croire, que nous sommes plongés dans un rêve. Samia nous appelle de Vitrolles. Bonsoir Samia.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Samia.
Comment ça va?
Ben écoute, ça va. Beaucoup d'émotions avec Nasser,
oui. Hein,
qui nous a vraiment touché.
La même émotion que je vais te raconter.
Oui.
Je te souviens, on t'avait appelé au mois de juillet avec maman. Je m'occupais de maman Kéra. Tu te rappelles Kéra?
Ah oui, oui.
Voilà.
Vous êtes de l'Ouest, je crois, d'Algérie, enfin non?
Non, on a parlé de Vitrolles, on a parlé de
Mais vous
notre...
êtes d'où d'Algérie?
À Oran.
Oran de l'Ouest.
Voilà, c'est ça.
Oui. Et donc, du coup, voilà.
Donc, tu nous avais invités sur Paris à venir.
Je t'avais dit, tu viens avec ta maman et je voulais que ta maman assiste à l'émission.
Voilà, mais maman nous a quittés le 15
septembre. C'est pas vrai.
Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais t'appeler, je voulais te le dire. Et,
oh, mon Dieu.
Et voilà, je voulais que tu...
Oh là là, vous allez me tuer, là, ce soir.
Voilà, on reste dans la même émotion.
Et je me souviens, elle avait parlé à l'antenne et elle avait dit de belles choses et tout. Et puis, un autre soir, ta sœur avait appelé, elle était avec toi.
Nassera, qui parlait du chat de Nassera.
Oui, et ta maman, elle dormait. Et elle me dit, elle s'endort avec l'émission, elle écoute.
C'est ça. Voilà.
Non, mon Dieu.
Elle viendra quand même te voir avec mon frère, ma sœur.
Voilà, venez avec plaisir.
Nassera, ta mère et...
Oui, voilà. Oui, avec plaisir, vraiment.
Voilà, Vanessa.
Elle n'a pas souffert.
On était auprès d'elle, on lui tenait la main. Et elle a attendu que tous ses enfants soient avec elle. Voilà.
La yirhamha salih, mon Dieu.
Amen, amen. Voilà. Donc,
on est vraiment rien. Tu sais, tout à l'heure, je disais que j'ai l'impression que nous vivons un rêve. Nous sommes dans un rêve. Eh bien, ta maman, comme la maman de Nassera, elles se sont tout bonnement, tout simplement réveillées.
C'est ça.
Elles étaient dans un rêve, elles se sont réveillées.
C'est ça, exactement.
C'est peut-être ça. Et elles sont dans le vrai monde.
Elles sont dans le vrai monde, tout à fait.
Oui.
Voilà.
Mais c'est bien parce que vous êtes une famille unie, donc vous
vous
soutenez avec tes sœurs, ton frère.
Voilà, ben là on est là tous les trois et on t'écoute et voilà, on est venu fêter l'anniversaire de maman, c'est son anniversaire aujourd'hui.
C'était son anniversaire aujourd'hui?
Aujourd'hui, le 4 octobre.
Mon Dieu.
Elle aurait eu 73 ans, voilà, donc on est venu, on a fait un gâteau, on a fait des pizzas.
C'est bien.
On est venu voir papa et on a...
C'est bien, vous avez allumé une bougie, des bougies pour elle.
Non, on n'a pas fait de bougie, mais on a fait plein de choses.
Une petite bougie, c'est bien, parce que la lumière, je prends bougie. Vraiment de tout cœur. Khaira, de là où elle est. Eh bien,
Vanessa, elle t'aime beaucoup.
Je sais, oui.
Voilà.
Ouais, elle me l'avait dit en plus.
J'essaye de retrouver le podcast du 27 juillet.
Alors, c'était quand?
J'arrive
c'était
pas. C'était le 27
quand
juillet.
Alors, je vais le noter. 27.
Ouais. Le 27 juillet.
Juillet. Alors, écoute, je vais essayer de trouver le podcast, Inch'Allah. Je vais te le retrouver.
Si tu le trouves.
Voilà. Ouais. Et puis, est-ce que tu vas laisser ton adresse mail à Fodil, Zach plutôt, parce que je comprends avec Fodil. Tu lui laisses ton adresse mail.
Ça va.
Et je vais retrouver ce podcast.
Ah, mais si tu fais ça, ça serait super.
C'est normal.
C'est
normal. Voilà. Et je te l'envoie. Promis.
Ah, je te remercie, Vanessa, et on t'embrasse tous fort.
Moi aussi. Je vous embrasse. Tout mon cœur, vraiment. Courage.
Merci.
Et ne pars pas.
Allez, au revoir.
À bientôt, ne raccroche pas. Fodil, tu reprends Samia. Elle va te donner son adresse mail. Oh là là, mon Dieu, c'est. Ouais. Ben oui. Que dire? Il n'y a rien à dire. voilà, Nasera, la date anniversaire du départ de sa maman, jour pour jour, 22h30, au 4 octobre 2021, elle s'est endormie pour se réveiller ailleurs, dans une autre dimension. Et Samia de Vitrolles, sa maman Khaira, qui était une auditrice et très fidèle, je me souviens ce jour où elle m'avait fait des da'awil khir. Ses filles m'ont dit, tu lui fais du bien, maman, parce qu'elle t'écoute tous les soirs en s'endormant, parce qu'elle est dans l'ayrhama. Eh bien, aujourd'hui, c'est son anniversaire, 73 ans. Rien ne dure, vous voyez. On se laisse emporter par... On se laisse distraire, j'ai envie de dire. Distraire par les choses de la vie, voilà. Et puis on dit qu'on n'a pas le temps. Mais il faut trouver le temps. Il faut. C'est important, vraiment, pour ceux qu'on aime. Eh oui, la yarhamouhoum en tout cas, vraiment de tout cœur avec tous ceux qui nous ont quittés. Bonsoir Saïd qui nous appelle des Yvelines.
Oui, oui, bonsoir Vanessa.
Oui, bonsoir Saïd, bienvenue à toi. Bonsoir,
merci. Oui.
Beaucoup d'émotions ce soir, hein, Saïd. Hein.
Ben, je vois ça, mais justement je voulais intervenir pour la dame qui a appelé la première. Là.
Oui. Nasera.
Oui.
Oui.
Ben, ça m'est arrivé, pratiquement pareil, parce que moi j'ai encore mes parents qui sont encore vivants. Mais
Arbish Dhumlik, en tout cas.
Bon, ils sont encore jeunes, hein, parce qu'ils m'ont eu très jeune.
Oui.
Avec ma mère, elle a 17 ans plus que moi.
Ah alors, oui, ah oui, elle est jeune, oh mon Dieu.
Et mon père, elle a 20 ans plus que moi.
Oui, elles sont très jeunes, oui.
Bon.
C'est vrai qu'il y avait une époque où on se mariait jeune. Et donc
bon. Et donc, voilà. Ben, malheureusement, parce que je sais que, pareil, moi, j'aime bien ma mère, c'est celle qui compte tout au monde. Parce que mon père, il a fait tellement de choses à ma mère, donc j'ai pas aimé.
Elle a souffert. Ils étaient durs, les hommes, avant, hein, quand même. Hein. Pour certains, alors, hein, pas tous, mais c'était
moi,
une époque...
J'ai toujours défendu...
Ouais.
Il n'y a pas que ma mère, hein, toutes les femmes en général. Hein.
Oui.
C'est vrai d'être une femme, c'est pas facile.
Ben, être une femme... Pardon.
Non, c'est pas facile.
Alors, aujourd'hui, bon, dans certains endroits du monde, comme ici, en Europe, en France, il y a des lois, donc les femmes ont des droits... Oui. Et oui, elles sont défendues.
Malheureusement, c'est
mais,
pas le cas.
Voilà. Mais dans certains pays, comme tu le vois, ce qui se passe en Iran en ce moment, ces pauvres malheureuses. Et ailleurs, c'est pas facile.
Excuse-moi de vous interrompre.
Non, vas-y.
Donc, c'est pas ici en France, malheureusement.
Comment ?
C'était en Algérie.
En Algérie, oui. Eh oui, puis là-bas, les lois, c'est pas toujours.
J'ai travaillé avec mon père.
Ouais.
J'ai aucun salaire, rien du tout.
C'est incroyable.
Tout ce qu'il me donne, il me donne rien du tout. Il me donne juste une petite pièce pour prendre un transport pour rentrer chez moi.
Ah ouais, ça s'appelle de l'esclavage.
Et en quelque sorte.
Ah oui, ça y ressemble.
Donc après, c'est pour ça que je rejoins. Après, à un moment, après, je suis pas chez moi, je suis chez mon père. Vous voyez.
Eh oui, parce qu'ils abusent justement de leur statut entre guillemets. Avant, on disait les chefs de famille. Hier, on en parlait avec Méziane justement. Avant, on disait chef de famille, mais chef de quoi ? T'es pas le. Alors donc, on n'est pas un troupeau de moutons et eux, c'est des bergers.
Vous savez,
c'est terrible cette mentalité.
Je vous donne la réponse.
Ouais.
Vous savez qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Attends, je te reprends. Je te reprends, Saïd. Ne pars pas. On a une pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
01 53 48 3000, vous êtes sur Beurre FM. Confidence jusqu'à 23h, on est avec Saïd. Saïd qui nous appelle des Yvelines. Saïd.
Oui.
Oui, Saïd. Oui, tu parlais de.
La meilleure, parce que.
On parlait des femmes, de leurs conditions. Ah, et...
moi, franchement, il ouais. n'y a pas que ma mère, mais toutes les mères. Quoi,
toutes, oui.
Chaque fois, parce qu'on travaillait dans les marchés, à l'époque, avant que j'arrive ici en France, je parlais quand j'étais en Asie. Du coup, après, malheureusement, ben, c'est ma mère qui se réveille à 4h, 5h du matin pour me réveiller. Vous imaginez ? Mon père, il s'en fout, quoi. Et puis ma mère qui vient me réveiller, ben tiens, il faut y aller, va faire les marchés, ben tiens, il y a ton paquet qui t'attend. Bon. Après, à la fin, après quand on a fait les marchés, mon père, qu'est-ce qu'il me donne, ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ben, il me donne une petite pièce, et voilà.
C'est incroyable, ouais, hein, quand même, hein, c'est fou. Faux. Ouais.
En fait, je travaille gratuitement, quoi, enfin, en quelque sorte, quoi.
Ah ouais.
Ce que j'aime bien, c'est ma mère, parce qu'elle travaille et tout. Après, mon père, des fois, il rentre tard. Bon, je ne vais pas donner des détails. Hein.
Oui.
Voilà, donc il va à gauche à droite. Il arrive et il rentre minuit, des fois à 1h du matin. Après, il emmerde ma mère. Et voilà, à chaque fois, après, ça fait me réveiller, parce que c'est moi l'aîné de la maison, quoi, tu vois.
Oui.
On est six quand même. On est six à la maison. J'ai deux frères et trois sœurs.
Mm-hmm.
Donc on est voilà. Donc c'est moi l'aîné. Donc et à chaque fois, ça me réveille. Et je dis qu'est-ce qui se passe quoi. Mon père il rentre un peu bourré. Ma mère bah elle est là à côté bah malheureusement elle dit rien. Et c'est à moi de faire quelque chose quoi. Et quoi, après, j'ai discuté avec mon père, j'ai dit, bah, écoute, si tu veux boire, bah, tu ramènes ta boisson, tu bois à la maison, il n'y a pas de problème.
Et pourquoi boire ? J'ai juste envie de dire voilà. Pourquoi boire ? Parce que boire à outrance.
Non,
tu vois, jusqu'à. Ben oui, boire, comme on sait, tu sais, ils n'ont pas de limite. Hein, j'ai l'impression que c'est pour ça que l'alcool a été interdit pour certains. Voilà. Ils n'ont pas de limite. Et tu sais que les gens qui boivent de l'alcool deviennent violents. Agressif, tout le monde en pâtit. C'est horrible.
Il n'a jamais tapé ma mère.
Oui,
non,
mais.
Il n'est pas violent.
Mais.
Des gestes, enfin, je sais pas, la manière dont comme il réagit.
Psychologiquement, c'est de la violence.
C'est
de la violence psychologique.
Violent. Voilà.
Eh oui.
Il n'a jamais tapé ma mère. Hein.
Non, mais on n'a pas besoin de lever la main sur quelqu'un pour être violent. Après, il y a des violences qui sont sournoises, qui ne se voient pas. Les menaces, les cris, les insultes, c'est de la violence.
Ben, des fois, même moi, il m'a réveillé plusieurs fois.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il vous réveillait ? Qu'est-ce qu'il disait ? Il criait. Il vous insultait.
Il me dit, tu fais à manger.
Ah ben voilà.
Comment ça ? Ben attends, tu rentres à 7h07, tu fais à manger ?
Ouais.
Je dis, ben attends. Il y avait mon frère qui était. Il a 4 ans moins que moi.
Ouais.
À l'époque, il avait quoi ? Il avait. Il avait peut-être. Je sais pas, il avait 16 ans à peu près.
Ah oui.
Ah, mon frère, je te jure, c'est la vérité. Il a été chercher un couteau.
Oh là là.
Et voulait poignarder mon père.
Oh mon Dieu.
Mon frère.
Mmh. C'est horrible. Hein.
Parce qu'il l'emmerde. Hein. Il arrive toujours tard, quoi.
Oui, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ces gens. Tu sais, l'alcool, tu ne raisonnes plus. C'est comme la drogue, c'est la même chose. Et ça, c'est valable dans toutes les communautés. Hein. C'est partout. Moi. En France, tu vois bien qu'il y a des féminicides, qu'il y a des hommes violents en France, partout en Europe, partout. Il n'y a pas que dans nos pays d'origine. Non. L'alcool, c'est, si tu veux, c'est la cause de beaucoup de féminicides.
Oui,
beaucoup de. Et oui, il y a beaucoup de femmes qui sont tués par leur mari à cause de l'alcool. Ils se rendent pas compte.
Ouais,
ils sont dans un délire dans leur monde. Leur cerveau, il y a de la fumée dans leur cerveau. C'est pour ça que l'alcool, c'est mauvais. Tout le monde le dit. Les médecins, je veux dire, on voit bien les gens qui, quand ils sont sous. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Rien du tout. Ils peuvent commettre même le pire l'inceste. Moi, j'ai eu des témoignages comme ça. Il y avait des femmes aujourd'hui, elles sont femmes, elles te disent quand elles étaient jeunes, c'est des petites jeunes filles, des petites gamines, adolescentes, leur père était tellement saoul, il savait même pas ce qu'il faisait, il allait vers sa fille. Ça va pas. L'alcool, c'est de la folie.
Non, mais c'est dingue. Il n'y a pas que l'alcool.
Non, mais on parle de l'alcool. Donc l'alcool, c'est dangereux. Il n'y a pas que l'alcool.
Après, il y a les femmes aussi derrière.
Ah oui, après, bon, c'est des époques, malheureusement, où les hommes étaient durs. Ah, ils n'étaient pas faciles, les hommes de l'époque, même en Europe, en regardant les films. Les années 50, les années 60.
Les hommes aussi,
ils n'étaient pas faciles. C'était pas facile,
c'est du cinéma.
Mais ça relate la réalité, hein. Ça relate la réalité. Tu lis des livres, la vie des gens. C'est pas que dans les pays du Maghreb. En France, il faut avoir vécu ici les années 70 pour savoir comment que ça se passait. Moi, j'ai vécu ces années-là. J'étais toute petite. Je voyais bien comment que ça se passait. Nos camarades, leur père qui buvait, etc.
Je te rajoute juste un truc. Parce qu'après, mon père, après, il est arrivé à l'âge de retraite. Donc, il faut bien que quelqu'un. Parce que nous, on avait une boucherie au bled.
Oui.
Bon, j'aime pas ce mot bled, mais bon, peu importe.
Ah, ben, tu peux dire bled, ouais.
Bon.
Oui.
Après, il a demandé à mon frère s'il voulait reprendre
la boucherie. Oui.
Parce qu'on travaille dans la boucherie, nous.
Ah oui.
Dans la boucherie.
Donc il lui a proposé de reprendre le commerce du papa, oui.
Voilà, exactement.
Et alors, il voulait pas ton
après,
frère?
Mon frère.
Hein? Il voulait ton frère ou pas?
Au début, oui. Après, il a repris la boutique et tout. Et ça a duré quoi? Ça a duré entre six mois et
un
mois.
Ah bon? Pourquoi?
Pourquoi? Ah bah, je t'explique pourquoi. Bah,
vas-y.
Après, mon père, il vient piquer dans la caisse.
Oh là là, bah ouais. Les mauvaises habitudes.
Après, mon frère. Ah bah oui, après, mon frère, il a arrêté.
Oui.
Après, moi, j'ai travaillé dans une usine de yaourt qui était très connue, d'ailleurs. Je sais pas si je peux donner le nom.
Bah oui, tu peux le dire, si tu es en Algérie.
Bon, c'était chez Djurdjura, Batouche.
Oui.
C'est yaourt Djurdjura.
Oui.
Voilà, bon.
C'était des années difficiles, mais c'était des années difficiles en Algérie, mais c'est des années difficiles en France. C'était des années difficiles partout, malheureusement.
Mais si ton père était plus sympathique,
c'est sûr que ça aurait un petit peu adouci votre quotidien.
Non, je ne te parle pas de la vie algérienne, je te parle juste de mon père.
Mais c'est ce que je te dis. Je te dis déjà, à l'époque, elle n'était pas facile. Les gens, ils travaillaient, tu sais, dans les usines. Regarde en France. Oui.
Non, venez ça, s'il te plaît.
Oui.
Franchement, moi, j'ai travaillé dans la boucherie de mon père.
Oui.
Avant qu'il parte en retraite.
Oui, oui.
Franchement, on gagnait, franchement, des fortunes.
Mais vous ne voyez pas l'argent, parce que ton père, il prenait tout. Il allait boire.
Comme on dit, il n'y a pas que l'argent qui compte. Je suis d'accord.
Ça contribue quand même pour vivre et avoir un peu de confort.
On gagne bien notre vie.
Ouais, oui.
Combien on faisait par semaine?
Oui.
On faisait 5 veaux par semaine, t'imagines?
5 veaux?
5 bêtes, 5 veaux, 5 bêtes, comme tu veux.
Mais ça que nana les animaux redonnés, la vérité.
Ça fait beaucoup.
Ouais.
Même ici en France, ils ne le font pas.
Et l'argent, vous ne voyez pas la couleur, parce que ton père, il dépensait. C'était un fêtard. Est-ce qu'il trompait ta mère? Il avait des maîtresses?
Parce qu'en général,
l'alcool, les maîtresses, ça va avec. Hein.
Non. J'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre, mais...
Mais vous le soupçonniez?
En quelque sorte, oui.
L'argent, il fallait bien qu'il parte quelque part.
Non, mais après, je dis à ma mère, je dis, on arrête.
T'as raison.
Oui, c'est bon. On va le virer.
Ah, dis donc.
Comme ça, mais attends.
Puis il aurait pu profiter tranquille de sa retraite et vous laisser travailler tranquille quand même.
Ah oui, maintenant, bah voilà. Bah,
bah, il aura pu, hein.
Maintenant, quand il ne travaille pas, il touche moins d'argent.
Ouais.
Est-ce qu'il va avoir des métrages, j'en sais rien.
Ah ben, bah, écoute. Il fallait bien qu'il dépense son argent. Saïd, on va aller très vite parce qu'on a beaucoup d'appels et tu sais, on a des pauses.
Oui, ben, En tout cas,
merci pour ton témoignage. Je pense que beaucoup vont se reconnaître. Je t'embrasse, Saïd.
Merci.
À bientôt.
Merci, moi aussi, au revoir.
Au revoir. Terrible, hein, c'est vrai que c'était des époques difficiles. Hein. Puis les hommes, c'est vrai qu'avant, ils buvaient beaucoup. Alors donc, partout. Hein, en France, pareil. Hein, vous allez à Paris. Tous les maris, tous les hommes, la plupart, ils allaient chez le Bougna du coin. Avant, il y avait le Bougna. Vous savez, le Bougna, c'est les petits bistrots. Petits bistrots qui vendaient du charbon. Ça, c'était le cœur du Paris. Hein. Moi, je vous parle le Paris un petit peu titi parisien. Je suis un peu titi parisienne. Hein. J'ai vécu dans le Marais. Donc, le titi parigo, un petit peu à la Jean Gabin, vous voyez. Eh bien, les gens allaient chez le Bougna, les hommes. Ouais, ils allaient boire le ballon, ils disaient ballon chez le Bougnard, ballon de rouge, ballon de rosé chez le Bougnard. Donc ils se retrouvaient les hommes là-bas, ça rigolait, ça picolait. Et puis après, ils rentraient à la maison et la pauvre épouse, je vous raconte pas, même pas ce qu'elle déguste, et les enfants avec. Aïe, 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 aïe. 01 53 48 3000, on a Mourad qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Les autres, réveillez-vous. Ah, on a Méziane. Méziane, je te prends juste après Mourad. Bonsoir Mourad.
Oui, bonsoir Vanessa, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue à toi Mourad.
Je vous remercie. Oui, je vous appelle pour témoigner un petit peu par rapport à tout ce que j'ai entendu. Une personne qui a perdu sa maman et puis un peu les conditions de la maman justement par rapport au milieu dans lequel elle vivait.
Ouais.
Moi, je vous appelle aussi par rapport un peu, ben, ça rejoint les deux parce que j'ai perdu ma mère, ça fait un an et demi maintenant.
Oh là là, c'est récent, la yarhamha, mon Dieu.
La yarhamha, ouais.
Ça a l'air.
Et c'est vraiment dur.
La plaie, elle est encore ouverte là, hein, un an.
Pfff. Ah oui, oui, toujours.
Waouh.
Toujours, mais je ne sais même pas comment faire des fois. Après, moi, c'est vraiment particulier parce que je n'ai pas assisté à son enterrement, j'ai pas, à cause du Covid.
Oui. Oh là là, ça, c'était compliqué.
Ouais. Alors, les frontières s'étaient fermées et on ne pouvait même pas se rendre là-bas.
Oui.
Parce qu'elle était là-bas.
Bah, en le fait, Covid, il a fait des ravages. Ouais. Elle est morte du Covid, ta maman?
Non, même pas. Hein.
Non.
Elle avait une maladie chronique depuis longtemps et en fait, d'un seul coup, elle a eu une crise et malheureusement, ça
a duré
juste 10 jours après sa crise.
Aïe.
Donc, en quelque sorte, moi, je vis en France et du coup, j'ai pas pu même pas en profiter de ces derniers moments,
d'être
à côté d'elle. Je m'en veux un peu.
Oui, mais c'est pas de ta faute. Faut pas culpabiliser. Parce que le sentiment de culpabilité dans cette époque n'a pas lieu d'être parce qu'on a eu le Covid. Même en France, regarde, en France, les gens qui décédaient dans les hôpitaux, ils pouvaient même pas voir leur famille. Moi, j'ai des infirmières qui nous appellent, on a des amis, de la famille. Eh bien, pendant des jours et des jours et des jours, ils sont là, sur le ventre, ils ont les tuyaux, et leurs familles qui ne peuvent même pas les voir, qui se déchirent dans la cour des hôpitaux, qui sont à l'extérieur, on ne peut pas rentrer, c'est pas possible.
Oui.
Et il y a des infirmières, elles me disent, Hanan Shahadul Home, tu vois. Ils leur font Shahada, les infirmières, tu vois. Parce que les musulmanes, voilà. Trolkin Afouahad Muslim Shahadul Home, à la place de sa famille. Okay. Et elles pleurent en même temps, tu vois, elles pleurent parce qu'elles se disent, Mskin, il a, ou Mskina, elle n'a même pas la possibilité d'avoir
ses proches. C'est
dur, hein, partout, en fait, bled, partout. C'est compliqué, ce Covid, il a fait un ravage.
Énormément. Oui, c'est vrai que c'est la période du Covid.
Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu culpabilises, Mourad.
Non, je ne culpabilise pas énormément, mais une petite part du fait où je me dis...
T'aurais aimé.
Donc, c'est une petite culpabilité par rapport à ça. Mais sinon, j'ai envie de lancer un coup de... Je ne sais pas comment appeler ça... le rappel aussi, mais un coup de colère surtout par rapport justement aux fermetures de frontières, parce qu'il y a des pays où les frontières étaient fermées. Il y a quand même, quand on a des cas extrêmes comme ça pour aller voir, dire un dernier au revoir, C'était pas le Covid à son plus gros stade, vous savez. C'était
oui.
Voilà, ça a été diminué un petit peu.
Oui.
Et en cas d'extrême urgence, on pouvait aller. Je parle d'autres pays.
Je comprends.
Mais malheureusement, l'Algérie, je le dis, hein. Moi maintenant, je m'en fous parce que je leur en veux énormément. Je les ai appelés énormément, plusieurs fois, le consulat, ils répondent même pas. Ils nous prennent pour, je sais même pas, on n'a pas de droit autant qu'Algériens vis-à-vis du consulat algérien en France, quoi. Sincèrement, moi, je lance un appel. J'espère qu'ils m'entendent.
Ben,
et
oui,
des personnes comme moi, il y en a énormément. Il y en a énormément qui ont perdu leurs parents. Ils n'ont pas pu aller voir une dernière fois leurs parents. Une maman, vous savez, c'est très cher.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et moi, j'étais quelqu'un de très proche
de
ma maman. Et c'est dur. Hein,
Bien sûr que c'est dur.
Voilà.
C'est terrible. Et
je leur en veux énormément. Moi, je suis quelqu'un de croyant.
Oui.
Et toutes les personnes, j'appelle toutes les personnes qui sont comme moi, vraiment, au moins, si on peut changer les choses pour les autres personnes, pour avoir plus de droits, je veux dire, que le consulat ou même le système algérien, on va dire, qui donne plus de, je sais pas comment appeler, mais de valeur.
Mais c'est-à-dire que le consulat, ils n'avaient pas de réponse à donner, puisque eux-mêmes recevaient des ordres, ils se plient aux ordres, hein, c'est ça.
Alors, c'est le système,
c'est ça,
quoi.
C'est ça, hein. Enfin, c'est. Ah, il disait que c'était par mesure sanitaire.
Moi, je dis, hein, je préfère dire, parce que comme ça, au moins, moi, je sais que je fais un devoir.
Mm-hmm.
Voilà. Et on ne leur pardonnera pas. On est croyant. On ne leur pardonnera pas. Voilà. Moi, c'est un coup de colère. Je suis désolé.
Mais
c'est un peu sous l'émotion.
Mourad, t'as pas à être désolé. T'as perdu ce que t'avais de plus cher au monde, ta maman. Donc, t'as le droit d'être en colère. Tu as le droit, Mourad. Quand on perd sa maman, mon Dieu. Quand on perd sa mère, on a perdu.
Elle est partie surtout, elle n'était pas très âgée, elle était dans les soixantaines, donc c'est dur.
Elle n'était pas âgée.
Ouais, elle n'était même pas arrivée, non.
Oh mon Dieu.
Donc,
la ilhamha.
La ilhamha, oui. En tout cas, je vous remercie pour ce temps. J'aimerais pas que qu'il y ait une ambiance un peu morbide.
Non, c'est normal qu'on. Mourad, c'est normal, il faut en parler. Il faut justement se souvenir de ces personnes qui nous ont été chères, qui nous sont toujours chères, qui sont dans nos cœurs.
Ah oui, mais en plus, elle était magnifique. J'ai entendu le premier témoignage, vraiment, j'ai failli pleurer parce qu'elle était vraiment.
Oui, la maman, c'était pour ta maman aussi.
Oh là là, mais c'est.
C'était pour ta maman aussi.
Toutes les mamans, peut-être, mais vraiment, c'est pas parce que c'est ma mère. Hein. C'est vraiment, elle était vraiment une personne magnifique.
Oui.
Quand il y avait des problèmes, elle était la solution. Elle avait toujours la solution. C'est impressionnant, quoi.
Elles sont magiques, hein. C'est des filles.
Ah oui, mais elle était pleine de bonheur. Elle était beaucoup plus courageuse que mon père, par exemple. Ça, je suis persuadé. Voilà. Elle était vraiment un ange. Moi, je l'appelais un ange sur Terre, quoi. Elle était un ange. Elle rendait tout le monde heureux.
Un grand cœur,
mais elle pardonnait tout le monde. Vous savez comment elles sont les.
Ah oui. Elle réunissait tout le monde autour d'un bon
plat,
autour d'un couscous. Le meilleur couscous, c'est celui de la maman.
Ah oui, monsieur. En plus, là, comme par hasard, vous savez, je suis en train de préparer un couscous.
Ah oui, t'es en train de préparer, là?
Ouais, avec ma mère, elle m'a prenait
là,
ça
ce,
par
là, ce soir. Là ce soir.
Ouais, là en ce moment.
Tu le fais pour demain? Tu le fais pour demain?
Ouais, je fais pour demain.
Ah, c'est bien. Ah, tu m'as donné envie de faire un couscous. Voir qu'elle a
fait
un couscous.
Pour demain.
Demain. Comment? Alors, tu fais couscous que ta maman t'a appris?
Exact. Elle me l'a appris encore. Je ne l'ai pas appris là-bas. Moi, je l'ai appris par ses invitations, par le téléphone, la caméra, vous savez.
Alors, vas-y. C'est quoi la recette du couscous de ta maman?
Ah oui, non, mais après, moi, je vais pas dire à tout le monde le secret de ma mère.
La recette, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle met dedans? Qu'est-ce que tu mets dedans? Dans la sauce?
Non, mais c'est juste la manière comment
tu mets des légumes. Non, mais j'aime bien savoir. Tu mets des légumes.
Après, moi, elle me donnait ses épices, et même maintenant, personne ne connaît la recette de ses épices.
Mais c'est bien, comme ça, on apprend. On apprend toujours plus, parce que on le fait, mais il y a différentes manières de le faire. Chaque main est différente qui manque l'eau, tu vois. Donc peut-être que ta maman, elle avait quelque chose de plus.
Oui, après, c'est...
Une autre, d'autres qui vont mettre Barfa. Tu vois, il y a
plusieurs manières. Non, ça, c'est obligé, mais après, en fait...
Ah, c'est pas obligé, hein. Attends. Il y a des régions en Algérie, tu verras...
Je sais pas, hein. Oui, mais voilà, alors, c'est pas nous, en fait, c'est le mélange, non? C'est pas le mélange de...
Oui, les quatre épices, on le fait, ça. Ouais. C'est la tête du magasin, on dit. On le fait, c'est bon, Ras El Hanout. Mais t'as des régions en Algérie, tu mets Ras El Hanout dans le couscous. Wallah, l'adim, ils sont fâchés avec toi pendant un an.
Après, je sais pas, c'est une appellation qu'on appelle Ras El Hanout.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, à Cherchel, tu fais le couscous sauce blanche. C'est-à-dire, lift, c'est tout. Lift,
oui, oui.
Alors, donc, voilà, lift avec béda, les navets, et parfois courgettes, mais voilà, et des pois chiches. Alors, donc, les seules épices qu'on met, c'est le sel, poivre, et tarfa, la cannelle. Ouais. C'est tout. Tu rajoutes rien. Si tu mets la hadak ousmo, le paprika, ou tu mets ras el hanout, les gens, ils deviennent dingues, hein, ils te disent, mais qu'est-ce que... T'embarras le hanout. Comme ça, ils te disent.
Non, c'est moi, c'est avec chacun la...
Oui. Moi, j'aime bien ras el hanout.
Oui, moi, le mois qu'elle fait, il y a plus de coriandre, j'ai l'impression. Il y a vraiment...
Ah, ça, c'est l'Est.
Il y a plus de... Ouais, c'est plus de coriandre.
Steph, ils font un très bon couscous, Steph, il y a. Ah oui, oui, oui,
et
très,
moi, je
très
suis de la
bon.
Région de... Non, moi, je suis de la région de Kabylie, donc on met...
Ah, il est très bon, Kabylie. Ah, très bon.
On met un piment, on met un peu des...
Ah, il est très bon, le couscous Kabyle.
Beaucoup de légumes. Des lentilles, des haricots.
Ah, il y a tous les légumes.
Tous les légumes, hein. Tous les légumes.
Ah, ils te mettent des... Moi, je l'ai mangé une fois en Kabylie, en plein hiver. Ça te réchauffe, il neigeait. Et moi, qu'est-ce qu'il était bon avec le couscous. Il était délicieux, ouais. Avec l'huile d'olive et l'huile d'olive, la vraie, hein, tu vois ce que je veux dire, la vierge, première impression. Ah oui. Eh bien, écoute, je me suis régalée. Je me rappellerai toute ma vie de ce couscous. C'est vrai, hein?
Ah oui, c'est vrai qu'il est particulier.
Ah oui, avec, ils te mettent l'huile d'olive Hadik, mon Dieu.
Ouais, l'huile d'olive de...
parce qu'ils la font chez eux.
Ouais, c'est vrai qu'elle a un goût
spécial. Chaque famille, elle a ses oliviers. Elle va pas acheter son huile d'olive. Ils font, c'est la famille, ils font. Moi, on m'en envoie. Et tu verrais, on m'en a ramené encore. Alors, goutte à goutte. Hein.
Ah oui.
Goutte à goutte.
Chaque famille, elle a son huile, elle a une huile spéciale, différente de l'autre.
Ah, ouais. Moi, j'ai des amis, ils m'ont ramené de Kabylie, du vrai fait dans la famille, etc. Mais il est bon. Rien que tu ouvres le bouchon, tu as l'odeur de l'olive. Direct. Tu l'as dans le nez. Ah oui. Et c'est tellement précieux pour moi, c'est comme si c'était du caviar. Ah, j'en mets à chaque fois quelques gouttes comme ça pour garder la garder maximum.
D'accord.
Voilà, Mourad. Ben écoute, on s'est souvenu ce soir de ta petite maman. Comment elle s'appelait?
Malika.
Malika, très joli prénom, Malika.
Ouais.
Eh ben, ouais. Malika, Rahit.
C'est l'équivalent de l'ange.
Comment?
Ça veut dire un ange. Voilà,
c'est Malika, c'est un ange. Et ouais. Malika, c'est aussi. C'est un nom, si tu veux, de très prestigieux, parce que le Malik, c'est le roi. Donc finalement, c'est la reine.
Oui, ben.
Le Malik, on dit le Malik, c'est le roi. Ou le Malika, c'est aussi la reine, et en même temps, un ange. Eh bien, elle est parmi les anges. Allah yarhamha,
Allah yarhamha. En tout cas, je vous remercie pour cette écoute.
Je t'en prie, Mourad. Ben, écoute, c'était un plaisir de t'écouter ce soir, t'entends. Et puis toutes ces belles choses tu nous as racontées, ce couscous, j'en ai l'odeur dans le nez.
Ah oui,
je t'assure que c'est vrai. Wallah l'adem.
C'est toujours bon un couscous. Hein.
Ah, c'est bon, tu m'as donné l'idée. Demain, je vais faire un couscous demain. Je te jure, demain, je fais un couscous. J'adore ça en plus. Merci, Mourad, je t'embrasse fort.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, à bientôt. Au revoir, Mourad. Au revoir. C'est vrai, c'est bon, tam, couscous sexo. C'est le meilleur. De toute façon, le meilleur plat au monde, c'est le couscous. Qu'on veut ou pas. Voilà, il y en a qui vont dire non. Chacun, il dit ce qu'il veut. Enfin, pour moi, c'est le couscous, la vérité. Parce que c'est convivial. Avec un peu de semoule, on peut faire manger combien de gens? C'est vrai, hein? Fais le baraka. On peut inviter des gens. T'as un peu de semoule, tu fais le couscous. T'as pas de viande, mais allez. T'as, qu'est-ce que t'as? Allez, t'as un peu d'haricots verts? Allez, qu'est-ce que t'as? T'as des petits pois? Qu'est-ce que t'as? Ce que tu as, eh bien, tu le fais. Et tu fais la sauce du couscous sans viande, rien du tout. Quand tu as des personnes qui viennent à l'improviste, eh bien, c'est ils sont jamais de trop. Ah ouais, le couscous, c'est le meilleur des plats. Moi, je le dis. Oui, c'est fort. C'est que ça. Allô, Azoul. Azoul.
Hello.
Qu'est-ce que tu m'as fait, là, Mésia? Tu m'as fait un concert de...
Ah, pardon, c'est là. Je savais pas que t'allais me mettre en...
C'est un concert. Même pas tardé, il est ton concert.
Je savais pas que t'allais me mettre en scène.
Ah, bah si. Tous les soirs, je te mets en scène.
Bonsoir, Vanessa, ça va?
Bah écoute, quand je t'entends, ça va.
Bon, ben ça fait plaisir. Ben c'est bien de rendre hommage à tous nos défunts.
Oui, t'as vu, c'est beaucoup d'émotions hein, ce soir.
Chers parents, les mamans, les épouses, les frères, les sœurs, les...
Eh oui.
Tous les gens qu'on aime, voilà, c'est bien de leur rendre hommage.
Oui, les enfants aussi, il y en a qui ont perdu leurs enfants.
Et il y a les enfants, ouais, c'est plus douloureux, ça c'est le pire. C'est le pire des choses qui peut arriver, c'est le... quand on perd un enfant.
On ne sait pas ce qui est pire tellement, chaque fois qu'on perd un être cher,
oui,
on est déchiré,
vrai,
on est...
C'est toujours facile.
Alors... Vraiment.
C'est triste, oui. Mais bon, c'est la, comme on dit, ça fait partie de la vie.
Ah oui, ah oui, c'est la, ça fait partie de la loi de l'existence, comme dirait l'autre.
Pas peut-être choix, qu'un jour, peut-être qu'un jour, on va trouver le médicament
contre la mort.
Contre la mort.
Là, est-ce qu'on a pas être Charles? Laisse-moi mourir.
On va empêcher des gens
mais
de mourir.
Mais ça va pas. Tu vas éternité.
Ouais.
Non, c'est pas possible.
Le problème, c'est qu'après, il y aura plus de place. Il n'y aura plus assez de place, c'est ça le problème.
Déjà ça, et puis en plus, moi, très honnêtement, j'ai pas envie d'être éternel. Hein. Moi, je veux mourir en tant que ça.
Ah bon?
Ah oui, oui, oui.
Pourquoi?
Bah, normal.
Comment normal?
Bah, c'est normal, je suis né pour mourir. Donc moi, je suis la logique
normal,
des
normal,
choses.
Normal,
et en plus,
normal.
Pourquoi tu veux que je vive, je sais pas, 1000 ans là?
Ah, on va téléphoner après le soir.
Ouh, mon Dieu, quel... Ah ben, il y aura quelqu'un d'autre. Ah, non, 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 moi, je veux mourir, moi, un jour. Pas tout de suite,
habitué,
non.
Je suis habitué avec toi.
J'ai le temps. Oui, ah, mais j'ai le temps, je ne vais pas mourir maintenant, peut-être, je ne sais pas, je te forme, mais je ne veux pas être éternel.
Non, non, de toute façon, c'est un sujet tellement, tellement compliqué.
Mais Ziane, tout à l'heure, je pensais à toi quand je disais quelque chose.
Ah bon?
Oui, parce que ce matin, en me réveillant, j'en parlais à une auditrice, ce matin, en me réveillant, il y a des fois, tu rêves des lieux, des gens, tu vois le visage, tu rentres dans une boutique, un magasin, tu vois la personne, la commerçante, mais tu vois tout. C'est-à-dire que tu vis quelque chose, c'est la réalité, quoi. T'as tout. Les odeurs, tout dans le rêve. Alors, en me réveillant, je me souvenais tellement de tout, parce qu'il y a des rêves où on se souvient pas, et puis, je me suis dit, comme ça. Ça m'arrive souvent. Je me suis dit, bah, écoute, on est dans un rêve. On est dans un rêve. Je me suis dit, pourquoi on est dans un rêve? Parce que quand tu rêves la nuit, il y a des rêves qui sont tellement puissants, tellement frappants de véracité, j'ai envie de dire, tu as l'impression vraiment d'être dans la réalité. Mmh. Tu te dis que finalement, eh bien, peut-être que nous sommes dans un rêve. Eh bien ça revient souvent chez moi. Je me suis dit, tiens, je vais en parler. C'est pas tard, on l'a dit, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ben je vais en parler à Méziane. Tiens, lui qui cherche des réponses, j'en ai une. Voilà. Eh bien, on est dans un rêve, Méziane. Et quand on part de ce monde, on appelle ça la mort. Pour moi, elle n'existe pas. Et tu sais, la mort, pour moi, c'est un mot vide de sens. Quand on part, ça veut dire qu'on se réveille. On se réveille. Tu te réveilles dans la vraie vie. C'est bien ce que je te dis, non?
Oui,
tu te réveilles dans la vraie vie, Méziane.
Oui.
Avec Vanessa à côté de toi, comme ça, qui te taquine, qui te dit, t'as bien dormi, t'as bien ronflé.
Attention, je suis au lit. Hein.
Oui, mais dans l'autre vie.
Non, si t'es à côté de moi au lit,
mais non, dans l'autre vie.
Ah, bon.
Dans l'autre vie, il n'y a pas ces choses-là, elles n'existent pas.
Tu prends des risques avec moi.
Mais non, dans l'autre vie, il n'y a rien de ça. Dans l'autre vie, on est... Non, dans l'autre vie, on n'a pas ces choses-là.
Ah, c'est vrai.
On est comme des anges.
C'est vrai.
Voilà, il n'y a pas Hadshi Makesh. Voilà, il n'y a pas...
Je me pose beaucoup de questions par
c'est
rapport
fou,
à ça.
C'est fou, hein.
Et je me dis, bon, ben, j'aime trop la vie pour...
Pour la quitter.
Malgré les problèmes, hein, bien sûr.
Pour la quitter.
Ouais.
Mais tu la quittes pour te réveiller, Méziane. Tiens, on va prendre Michel.
Oui.
Michel, quand elle t'entend, elle vient. Bonsoir Michel.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Vanessa. Bonsoir Miziane.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Michel.
Vous allez bien?
Bah écoute, moi essaye. Ça va, Méziane un peu moins. Ah bah voilà, tu vois, il te répond. Ah Méziane, je te mets en attente, c'est pas possible d'entendre comme ça sous tousser.
Mais je suppose
il va cracher ses poumons.
Beaucoup Méziane, non?
Ah bah il a arrêté là, il est en train d'évacuer tout le mauvais, toute la mauvaise nicotine depuis 50 ans. Michel, alors on est en train de parler de quelque chose de
la mort.
Je sais pas si c'est sérieux, mais parce que la mort, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux, comme dirait Cabrel?
Comme dirait, oui. Ah, Cabrel. Oui, j'aime beaucoup Cabrel.
Ouais, moi aussi. Est-ce que ce monde
est sérieux? Il a des textes merveilleux, Cabrel.
Oui. Ah, oui. Alors, Michel, est-ce que tu penses que nous sommes dans un rêve?
Je suis comme toi. Ah. Je veux pas être éternel.
Ah, bah écoute.
Ah bon?
Ah non.
Tu vois, on est deux, Méziane.
Ben, tu voudrais pas qu'il y ait une autre vie après la mort?
Non, mais j'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien. Et quand j'étais enfant, on m'a traîné dans la farine avec tout ça.
Une fois qu'on est mort,
elle va te dire son vécu avec la mort, enfin, bon. De ce qu'on...
Non, mais on m'a traîné dans la farine avec tout ça. Au catéchisme, machin, tout ça.
Ah oui.
Et à partir de 15 ans, je me suis dit que c'était des balivernes et j'avais plus envie de continuer.
D'accord, à 15 ans.
Ouais.
T'as pris conscience.
Oui,
est-ce que c'est à travers peut-être de textes, de lecture ou parce que la lecture nous ouvre des horizons. Hein. Moi, la lecture m'a très tôt, hein, très 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 tôt, à 7 ans, 8 ans. Déjà, j'avais pas de conviction, on va dire, mais j'avais des idées qui étaient des pensées presque d'adulte. Hein. Mais ça, c'est la lecture. Hein. Est-ce que c'est la lecture,
Michel?
J'ai
lu Le Petit Prince, j'avais 11 ans.
Ah, Le Petit Prince. Dessine-moi un mouton.
Mais qu'est-ce que c'est beau, Le Petit Prince. Mais c'est mignon. Que c'est beau.
C'est beau. Oh, c'est plein de messages, mais les gens, ils n'ont pas compris toujours.
C'est plein de messages, justement. Moi, je le relis tous les 3-4 ans.
Ah oui. Ah oui.
Et chaque fois, j'y trouve des choses que je n'avais pas forcément vues. Enfin, c'est fantastique, fantastique. Oui.
Alors, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Alors, c'est de Saint-Exupéry. Le Petit Prince. Oui, on m'envoie des messages. Donc, lisez-le. C'est très intéressant, mais lisez entre les lignes.
Paris,
c'est pour
son
les
avion.
Enfants, forcément. Hein.
Ils ont retrouvé son avion, je crois, au large de Marseille.
Oui, tout à fait. Oui, et son bracelet, sa gourmette.
Oui.
Et donc, et ça t'a...
Ben ça oui. T'a... Ben oui, parce que d'abord, il avait l'impression de s'être trompé de planète, et moi aussi.
Ben c'est ça, message. J'aime beaucoup, ouais.
Michel.
Oui.
Moi, je voudrais mourir d'amour.
Attends, on est en train de rêver, là, Méziane. Arrête de nous parler de ces...
Ben, l'amour, c'est pas du rêve, ça.
Non, mais on parle du Petit Prince.
Oh, ben, le Petit Prince,
non, mais on parle du Petit Prince et du message. Alors, j'aimerais bien que Michel développe. C'est tellement magnifique et important. Peut-être que ça va donner aussi l'envie à certains de plonger dans cette tellement belle lecture, c'est magique.
Alors, il cherchait des amis sur
la Terre et puis il n'en trouvait pas beaucoup. Et puis il a trouvé un renard, il a demandé au renard de l'apprivoiser. Oh, c'est beau. Et puis il était bien triste parce qu'il se sentait responsable de sa rose.
La rose,
de sa fleur. Oui. Oui. Mais sa fleur, elle n'était pas toujours gentille avec lui. Oh mon Dieu.
Mais oui.
Et puis il y a une phrase extraordinaire que j'ai retenue dans Petit Prince, c'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. »
Mais c'est ça, parce que au-delà des apparences, il y a l'esprit qu'il faut découvrir avec le cœur.
Ouais.
Et avec le Petit Prince, justement. L'essentiel est invisible pour les yeux, dit le renard.
On ne voit bien qu'avec le cœur, oui.
Parce que le renard, c'est ce qu'il dit, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Et moi, Michel, je te vois bien avec mon cœur.
L'importance pour la...
Ah, écoute, hein.
Je vous reprends. Mais Yann, tu peux être sérieux.
Je
vous reprends juste après, on a une petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
01 53 48, pardon, 48 3000. Magnifique l'histoire du petit prince. Vous voyez, comme quoi. Cette histoire, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages et elle est très philosophique. C'est un génie, hein, Saint-Exupéry, vraiment. Parce que ce petit prince, moi, je pleurais quand je le lisais. Je comprenais pas tout quand j'étais petite parce que je lisais le texte comme une petite fille ou un enfant lit. C'était magique, point à la ligne. Et puis après, en grandissant, à l'adolescence et plus tard, après, j'ai compris tous les sens. Voilà. Le petit prince comprend qu'en apprivoisant, voyez, c'est pour ça qu'il a apprivoisé la rose, qui est devenue quelque chose d'unique pour lui. Parce que quand on apprivoise, comme il le dit, comprend qu'en apprivoisant, il arrive à faire sortir de la masse un être qui devient pour lui unique au monde. Et oui, c'est par ces mots, Saint-Exupéry veut nous faire comprendre que nos yeux ne peuvent pas percevoir la singularité d'un individu, d'une chose. On a tendance souvent à à mettre des gens, vous voyez, dans des cases et à nous faire des idées, on a de fausses idées, hein, sur les gens, parce qu'on est on est trop hâtive dans nos jugements. Tout le monde juge tout le monde, vous voyez. Les gens regardent une personne et tout de suite ils se font une idée de cette personne, tout de suite. Alors que s'ils prenaient le temps de connaître cette personne, eh bien, ils trouveraient à l'intérieur de cette personne tout un monde, un être complètement, complètement différent, vraiment. Différent de ce qu'ils ont imaginé qu'elle était, cette personne. Parfois, on juge une personne extérieurement et on la juge mal, on s'en détourne, on critique. Et bien parce qu'on est trop rapide justement dans nos jugements et on prend pas le temps de connaître la personne. Et souvent d'ailleurs, je pense qu'il vous est arrivé de vous dire, je me suis trompée, tiens, sur son compte, je me suis trompée sur cette personne, je pensais qu'elle était, ah ouais, c'est les apparences. Mais oui, tout n'est apparence. Ne vous arrêtez jamais aux apparences. Allez jusqu'au bout, creusez, faites comme le petit prince, apprivoisez. Alors, on est avec Michel.
Oui.
Tu écoutais ce que je disais?
Oui, tout à fait. Je trouve que je disais que les médias n'arrangent rien.
Mais oui, malheureusement. Ah oui, non mais.
J'ai un écho. Comment ça se fait?
On a un écho. Ah, c'est là. Tu sais le boîtier. Merci, Zach. On va régler le problème.
Merci.
Je t'en prie. On va régler le problème tout de suite.
Merci, c'est gentil.
Oui. C'est bon là? Oui, là,
oui,
c'est bon.
Oui, je crois. Oui, oui, c'est bon, je crois. Oui, oui.
Oui, tu parlais des médias. Oui, parce que les médias, tout est en surface, tout est en...
Les médias font du mal, vraiment.
Mm-hmm. Oui.
Je parle même pas des réseaux sociaux. J'ai jamais mis les pieds, jamais.
Eh ben, écoute, tu n'as rien raté.
J'ai pas envie.
Non. Tu as raison.
Ce n'est que violence, ce n'est que haine, ce n'est...
Oui. Oui. C'est pas faux.
Donc, j'ai pas envie, franchement.
Ouais. Et c'est vrai que quand on ouvre sa télé, moi, ça me donne des haut-le-cœur, hein, maintenant, ça y est. J'arrive plus.
Oui,
hein.
Moi aussi.
C'est-à-dire
oui.
Que je suis tellement saturée, je peux plus. Donc j'écoute 5 minutes et après, c'est... J'ai une oppression.
Non,
je sens ouais, que ouais. Je suis oppressée. Donc je passe à autre chose. Mais, pardon. Eh bien, oui, c'est vrai que on garde des infos, tout ça. Et ce qu'on nous sert, c'est... Ben, on remplit les cerveaux des gens, c'est pour ça que la haine monte, personne n'aime personne, et
oui,
tout le monde absorbe tout ce qu'on leur sert, et prennent pour vérité les apparences, ben justement, l'histoire du petit prince. Donc, et ça, les chaînes d'infos, c'est quoi? On vous parle que des apparences des choses, que de l'apparence des choses. Jamais de la profondeur, et jamais de la singularité, justement.
Et non. Oui. C'est bien pour ça que on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est bien pour ça. Vraiment. Allô?
Oui, je t'écoute, hein, je t'écoute.
Ah, pardon.
Non. Et donc?
Et moi, je le relis tous les 4 ans et j'ai encore les larmes aux yeux parfois.
J'ai pas entendu ce que tu m'as dit parce que j'étais en train de régler mon micro, hein, et mon casque. Pardon, Michel?
Oui, je disais que je le relis tous les 4 ans. Et j'ai encore les larmes aux yeux parfois.
C'est vrai, hein?
Ah oui.
Ouais, c'est pas faux. Et puis l'histoire de la rose. Il dit, oui. Bien sûr, ma rose à moi. Un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle, oui, il dit, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle que j'ai, dont j'ai tué les chenilles, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même, quelquefois, se taire.
Et oui, mais bien sûr.
Ben oui.
Ah, c'est très beau, vraiment très
c'est
beau.
C'est beau et émouvant, en même temps.
Mais complètement, complètement.
Ouais.
Tu parlais de l'alcool, de l'alcoolisme tout à l'heure.
Oui.
Je vais te raconter une anecdote vite fait, parce que je ne veux pas.
Non, mais tu peux, vas-y, oui.
Retenir. Mon compagnon avait un médecin qui était. Un cousin qui était médecin généraliste.
Oui.
Et qui buvait énormément.
Mmh.
Et un jour, il a reçu une amie à moi. Elle voulait aller chercher une ordonnance pour la pilule.
Oui.
Elle est rentrée dans son cabinet. Elle m'a dit, il y avait plein de bouteilles vides par terre. Oh, plein de bouteilles vides par terre.
Il buvait dans le cabinet?
Oui.
Oh. Ouais,
et il lui a fait son ordonnance de pilule sans examen aucun.
Oh mon Dieu.
Eh ben oui.
Oh mon Dieu. Ah oui, non mais c'est affolant.
Et alors, peu de temps après, il a été radié de l'ordre des médecins, par contre.
Ah bah oui, là...
Par l'ordre des médecins.
Ah oui, carrément, ouais.
Ah bah oui. Ah oui.
Aïe. Quel gâchis.
Oh,
c'est fou, hein. Quel gâchis, mon Dieu. C'est terrible, hein.
Oui.
Parce qu'un médecin, il n'a pas le droit à la faute, hein. Parce qu'il a affaire à l'humain.
Quand sa femme a accouché de leur premier enfant, c'est-à-dire d'une fille, il l'a frappée un coup de ceinture parce qu'il voulait un garçon.
Non, un médecin, Ada.
Je te promets.
Oh, c'est pas possible.
J'en ris,
mais j'ai mal.
Bah oui.
Il a frappé sa femme à coup de ceinture parce qu'il voulait un garçon. D'une fille.
Oui.
Il est médecin.
Oui.
Ah non,
Parce qu'il est mort, maintenant.
Oui, enfin, il était médecin, quoi.
Absolument, mais absolument.
Ça choque doublement quand on sait, quand ça vient d'un médecin.
Oui, mais il était bourré, il était ivre.
Voilà, parce que bon, il est dans la science, il sait très bien comment ça s'appelle, comment ça se passe.
Oui, bien sûr.
Ah, c'est incroyable. Bien sûr. Il aurait dû se flageller, parce que c'est les hommes qui font les sexes. Il aurait dû se frapper lui, hein. Allez, hop.
Non, il avait plus son bon sens quand il buvait, il avait plus son bon sens.
Tu vois, même ah oui, non, mais l'alcool, ça fait des ravages.
Oh.
Des ravages.
Il y a et des ça hommes, fait des ravages collatéraux.
Ah, mais complètement. Ouais. On perd la notion des choses.
Ah oui.
Mais oui, c'est.
Absolument.
C'est terrible l'alcool, hein, parce que d'abord, ça rend violent, ça rend agressif, ça.
Oh oui.
Ah oui, non, mais...
Oh là là.
Ah, l'alcool, c'est terrible, ouais. C'est un fléau, hein. Moi, je dirais au même titre que la drogue.
Oh oui, mais c'est une drogue, de toute
façon. C'est une drogue, c'est vrai. C'est ça.
J'ai connu 3 hommes qui ont fait 3 cures de désintoxication.
Oui.
Et ça n'a pas marché, puisqu'ils ont...
Ils ont replongé.
Ouais.
C'est dingue, hein.
3 cures, chacun.
Ah bah dis donc, 3 cures.
Ouais.
Incroyable. Ah oui, c'est que c'est fini, ils sont fichus.
Ah oui, je crois.
Il n'y a rien à faire. L'alcool tue, hein, ça donne de la cirrhose du foie, ça donne... Il y a des gens qui prennent le volant alors qu'ils sont complètement dans un état...
Oh.
S'ils veulent se tuer, Ça, oui. ça fait de la peine, mais bon, ils ont choisi. Mais par contre, il y a des personnes qui n'ont pas demandé. Il y a des victimes. Hein.
Eh oui, ça agit sur le cerveau routes. Aussi.
Ah oui, ça agit sur le cerveau. Bah oui, oui. Bah oui. Bah oui, c'est pour ça que la preuve, ce médecin qui n'est plus médecin au moment où il a bu, à ne et plus non, savoir non. Où il est, quoi, ouais. Et, ouais. Et qui frappe sa femme à coups de ceinture.
Oui,
parce qu'elle a couché d'une fille. Non, mais alors
oui,
là.
Absolument.
Non, mais là, on est dans l'absurde total, hein, vraiment.
Mais c'est. Mais c'était le cas.
Et elle est restée avec lui, la pauvre femme.
Mais oui, elle est restée avec lui. J'ai pas compris jamais. Mais bon.
C'est incroyable. C'était une époque, peut-être, il y a longtemps.
Oh non, c'était en. Je sais pas, 50 et quelques, 1950 et quelques.
1950 ?
1955, il me semble.
Ah, bah, il y a longtemps.
Grosso modo. Oui, mais enfin, c'est pas.
Ah, si, il y a longtemps.
Non, mais c'est pas au 19e siècle, je veux dire, c'est pas.
Ah, bah, oui, mais enfin, 1955. Donc, à l'époque, les femmes, elles étaient. Michel, en France.
Ah, bah oui, non, mais oui.
Elles étaient pas vraiment libres, hein. Elles étaient un peu.
Non, mais. Hein non, mais Vanessa, mais c'était le chef elle de aurait famille, pu partir. Hein.
Mais où elle va?
Elle aurait pu partir. Elle
mais
aurait,
où,
elle
la était pauvre Michel.
Elle était infirmière.
Ah, oui. Ouais, elle était infirmière.
Donc, ouais. Elle aurait pu. Non, non, elle aurait pu, mais je crois qu'elle était accrochée à lui, je crois.
Ah bon? Ah, bah, dis donc.
Ouais. À coup de ceinture, mais bon.
Ah, bah, il l'a accrochée à coup de ceinture. Ah, mais les femmes, elles sont maso, hein, que je te dise.
Bah, peut-être.
Mais je pense qu'en 1955, il y avait d'autres mentalités. On ne divorçait pas. C'était la honte de divorcer. On disait la divorcer.
Oui, oui, oui.
Et même les enfants issus. De mère célibataire aujourd'hui, on dit, voilà, parents isolés, oui. Tout ça. À l'époque, c'était fille-mère. Et c'était oui. Mal vu. Même les enfants, les pauvres, on les affublait de surnoms, je dirais pas, hein, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais oui, je vois.
Ils étaient pour rien, hein, voilà. Donc, non, il y avait des mentalités à l'époque.
Donc, je sais bien.
Ah ouais. Donc les gens, si tu veux, bah ils faisaient avec les mentalités. Hein. Les femmes ne, parce que les gens, ils pensent que c'est que dans certains pays, les femmes divorcent pas. Non, même en France. En France, les années 50, les femmes divorcent pas. Ton mari boit, il te frappe, tu restes.
Ah oui.
Même
oui.
Tes parents, ils te disent, bah écoute, tu restes. Pour eux, c'est normal, voilà. Et puis t'as honte en plus de divorcer. Quelle femme oserait franchir le seuil d'un avocat, déjà, ça se faisait pas, hein. Il y avait les avocats, il n'y en avait peut-être pas beaucoup à l'époque. Il y avait pas les gens, il y avait pas trop d'affaires, hein. Et aller voir un avocat pour divorcer, mais t'imagines? Oh, elle est partie voir un avocat pour divorcer, mais c'est l'événement de l'année. Tu vois? Ça se faisait pas. Il y avait pas beaucoup de divorces dans les tribunaux. Dans les tribunaux, il y avait quoi? Il y avait des affaires genre, ouais, il m'a pris ma parcelle de terrain,
Ah voilà, oui, il y avait sûrement,
des histoires,
oui.
Tu vois, de clocher, quoi. Mais il n'y avait pas des histoires de divorce. Non, ça ne se faisait pas. En France, hein, je sais que ça ne se faisait pas. Les années 70, déjà, c'était une femme divorcée. Oh là là, t'as vu ça, la fille, oh là là, elle est divorcée.
Ah, ça a commencé quand même. Parce que
oui, mais c'était quand même encore un peu dans les familles.
J'ai vu mon compagnon faire plein de divorces en 70, hein. Vraiment.
Ah,
il était avocat.
Ah, ça a commencé. Après 68.
Ah oui.
Après 68.
Voilà, après 68.
Mais avant
voilà.
68, c'était. Ouais. Après, c'était la libertad. Après 68.
Ah, bah oui.
Allez, olé. Le French cancan. Oui. C'était le French cancan.
C'était trop.
C'est vrai ou pas? Bah oui. Aujourd'hui, c'est un peu beaucoup quand même. Hein.
Non, mais même après 70. Hein. Ouais.
Oui, voilà, la liberté totale. Je suis pour la liberté, mais moi, je dis qu'il y a toujours des limites à tout. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais avec des gens, tu vois, j'étais à ma salle de sport, je fais mon sport, et tout, je parlais avec quelqu'un là-bas. Puis on parlait des femmes, tout ça, d'aujourd'hui, tout ça. Et c'est vrai que, aujourd'hui, les ultra-féministes, hein, je dis bien. Moi, tout ce qui est ultra, j'aime pas. Ultra-féministes.
Moi non plus, j'aime pas.
Elles sont, si tu veux, tous les hommes, allez, tous les hommes, c'est leurs ennemis. Tous les hommes à mettre.
Oui, c'est stupide.
À monter au pilori. C'est bien sûr que c'est stupide. Ouais. T'as un homme qui te regarde, tout de suite, il devient un prédateur. Les hommes, ils n'osent plus parler. Ils n'osent plus prendre l'ascenseur avec les femmes au travail.
Comme aux États-Unis, un peu.
Ah oui, ça y est. On y arrive. Ils n'arrivent plus. Ouais. Un homme qui te... Je sais pas, qui t'aborde pour te dire quelque chose, je sais pas, comme ça, enfin, il t'agresse pas, il a dit, oh là, voilà. Eh bien, tout de suite, c'est, ah, ça monte très haut. Ah ouais, il y a des gens qui, dans leur travail, ils ont peur des femmes, hein, mon Dieu. Oh là là.
Sûrement, ça m'étonne pas.
C'est une drôle d'époque, hein, parce que aujourd'hui, on sait plus où on va. Michel, tu pars pas, je te reprends juste après, ma chérie. On a Mohamed de Saint-Étienne, Jean de Toulon, et les autres, je vous attends. Allez, 01 53 48 3000. Méziane nous a quittés. Ouais, Méziane, il dit des bêtises. Méziane, je sais pas pourquoi, il veut pas rentrer dans la discussion. C'est, tu me plais, je sais pas. Méziane, Oulala Adim, ton sevrage, là, t'as arrêté de fumer, c'est bien. Mais le sevrage, là, je sais pas, essaie de recoller les boulons. Allez, 01 53 48 3000, une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Yael Behri de Soul King, c'était Soul King là tout de suite avec vous. Yael Behri, elle est très jolie cette chanson, très douce. 01 53 48 3000, Michel, tu es où Michel? C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Elle est partie chercher son chat. Reviens Michel, on n'a pas fini notre discussion. Alors, Méziane est partie aussi. On a Mohamed de Saint-Étienne. Bonsoir, Mohamed de Saint-Étienne. Bonsoir. Mohamed? Oui, Mohamed, tu es à l'antenne. Mohamed de Saint-Étienne, bonsoir. Allô? Dis allô, je t'entends. Allô, 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 allô? Une fois, deux fois. Bon, on va le laisser. Qui a dit Harbi? Jean de Toulon.
Oui.
Bonsoir,
oui,
Jean.
Bonsoir.
Bonsoir, comment vas-tu, mon Jean?
Eh bien, justement, je voulais un peu relever la douleur de la perte des parents par une espèce de raison que j'ai fait moi-même. J'ai pas voulu de religieux. J'ai renoncé à mon diplôme de direction. Je devais aller à Paris en 87 pour la Touraine. J'ai renoncé parce que mes parents vieillissant, je me suis rapproché d'eux. J'étais dans la Marne. Et j'atterris à Toulon. On n'espérait pas parce qu'on était deux. C'est difficile. Et je n'ai pas regretté parce qu'un an après, mon père est mort et ma mère était analphabète. Mais analphabète, ça veut pas dire idiot. Elle savait très bien se débrouiller, elle savait compter, tout ça.
Oui.
Et alors, mon père est mort en 88 et ma mère est morte en 2007 exactement.
D'accord.
Et en 2007, bon, il y avait le caveau.
Paix à son âme,
le cercueil
qu'elle repose
à mes pieds.
En paix.
Pardon.
Oui, je sais qu'elle repose en paix.
Oui, merci. Oui. Donc j'avais le cercueil à mes pieds. J'étais pas sûr de pouvoir dire cette oraison parce que c'est douloureux d'avoir une mère. Ça aurait été le père, c'est pareil. Et j'ai dit, ben, tu viens de t'envoler, tu viens de pousser un dernier soupir pour vers un monde mais plus apaisant, apaisant. Désormais repose en paix. Je te verrai près de la fenêtre ou au bas de la porte, mais ce ne sera plus un rêve. Ce ne sera plus qu'un rêve, celui qui me permet de continuer à exister.
Ouais.
Ton plaisir, c'était de faire plaisir. Mes parents, c'était toujours pour les autres.
C'est fou, hein?
Eh bien,
incroyable.
Oui. D'ailleurs, jusqu'au
c'est
dernier moment,
hein,
les morts à
95
ans.
Hein. Il y a des générations
qui ont moment.
Oui,
moi, je perdais la vue. Je ne l'ai pas dit. Je suis allé sur Bordeaux parce que je perdais la vue. Elle était allée chez une sœur qui l'a mise en EHPAD.
Ouais.
Eh bien, elle ne s'est pas rendue compte que je perdais la vue. Et pourtant, le soir de Bordeaux, je me perdais. C'était Noël, les guirlandes, j'étais place des Quinconces. C'était pas vu, mais les Bordelais étaient très gentils. Donc, elle n'a pas vu. Et je pense que j'ai fait mon devoir, tant que c'est bien que c'est normal.
Bien sûr.
On n'a qu'une mère, on n'a qu'un père. Et quand ils partent, on continue à les faire vivre.
Ouais.
J'ai mis comme épitaphe, votre souvenir nourrit mon quotidien.
C'est beau, c'est magnifique, hein, Michel?
C'est très beau.
Allez, revenez,
et moi,
j'envoie
des brassées de pensées à mes parents tous les jours.
Oui, c'est magnifique.
Mais moi, je fais. Elle aimait la Paloma. Et je lui jouais, quand mon père est mort, je lui jouais la Paloma au synthétiseur. Et je mettais un saxophone, puisque mon père était saxophoniste. Et j'ai compris que c'était la façon de le faire vivre.
Ouais.
Et aujourd'hui, je les fais vivre tous les deux par la musique.
Ben oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce stock de souvenirs. Oui. C'est pour ça que cette génération, les enfants d'aujourd'hui, qui ne stockent rien du tout, puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux, oui, en permanence, donc il n'y a pas les grands-parents, les réunions familiales, etc. Et ils mangent tout seuls dans leur chambre, ils n'ont pas de stock. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être des robots. Alors que nous, bah, c'est ça justement qui nous aide à vivre et avancer. C'est tout cet amour, ce stock que nous avons de souvenirs. Ce que tu viens de dire, de le fait d'écouter la Paloma, d'écouter certaines musiques qui te la rappellent.
Symbolique.
Voilà, certains plats que nous mangeons, certaines odeurs. Aussi. C'est ce qu'on appelle la Madeleine de Proust. Mais les enfants d'aujourd'hui ne l'auront pas, cette Madeleine. C'est triste.
Eh bien, je disais que j'ai fait couscous lobia, parce que ma mère faisait ça. J'ai reçu cinq personnes. Oui. Un médecin, deux infirmières, l'aide à domicile, et j'ai fait un couscous avec l'oubia parce que ça me rappelait, je l'ai fait revivre.
Ben oui.
Parce que pleurer, c'est bien, mais ça suffit pas. Oui. C'est pas pleurer qui règle les problèmes, c'est entretenir la vie alors que c'est la mort. On entretient la vie des morts. C'est un pléonasme.
Ouais. Tu sais, j'aime même pas dire qu'ils sont morts. Parce que pour moi, c'est lugubre. C'est une invention humaine, la mort. Parce que quand on imagine la mort, on nous a donné des images. Moi, j'aime pas toutes ces images. Hein, parce que les êtres humains, ils nous ont fabriqué des images. Mais alors, vraiment, elles sont complètement falsifiées parce que ça sort de l'imaginaire d'humain. Donc, je vois pas pourquoi, moi, je vais avoir ces images. Donc, moi, j'ai tout détruit, tout ça. Voilà, de mon disque dur.
Je comprends.
Donc, t'imagines la mort avec un squelette comme ça, machin,
c'est horrible.
La faucheuse, Michel, la faucheuse.
C'est horrible.
Alors que pas du tout. Et c'est beau, une naissance.
Ah oui.
Eh bien, partir, ça devrait être beau aussi.
Une naissance,
voilà.
Bien sûr.
Une belle mort. Pas la mort, comme on l'imagine, dure et tout ça. Mais une mort douce. Comme j'ai entendu nos auditrices ce soir, leur maman s'est éteinte tout doucement, qui est partie reposer dans le sommeil, etc. On le souhaite à tout le monde. Eh bien, une mort comme ça, c'est beau. Donc la mort peut être aussi belle qu'une naissance. Voilà.
Dans certains pays, c'est la vieillesse, bien sûr.
Oui.
Dans certains pays, on fait la fête.
Je pense depuis longtemps que
leurs âmes sont au-dessus de nous, de toute façon.
Mais oui.
Mais depuis
alors, c'est vrai. C'est vrai, moi, quand je souffre, j'ai du mal à marcher, je demande à ma mère l'autorité. Non, c'est pas intéressant, je dis aide-moi. Elle est plus là.
Mais de l'aide.
J'ai l'impression qu'elle me donne une force.
Ah oui.
Mais oui.
C'est ma façon de croire.
Mmh. Oui. Mais oui.
Oui. Je ne crois pas en Dieu. J'ai perdu la vue. Donc, je ne sais pas s'il existe. Je ne veux pas impliquer les autres. Oui, mais moi, mon Dieu, c'est mon père et ma mère.
Oui.
Et voilà, je l'ai fait vivre à travers ces symboles, quoi.
Ben, le fait de croire en ton père et ta mère, quelque part, il y a une croyance. Tu comprends?
Oui, bien sûr.
On croit toujours en quelque chose. Tu comprends?
Oui, bien sûr. Mais on est né de quelqu'un, de quelque chose, de quelqu'un et pas de quelque chose. On est né de quelqu'un. Donc, forcément, il y a un rattachement même après la vie.
Mais quand tu dis tu ne crois en rien, et tu crois en tes parents.
Oui.
Donc, si tu crois en tes parents, c'est une forme de croyance déguisée. Voilà. Tu t'empêches de croire parce que par les aléas de la vie.
Oui.
Donc, c'est une manière, si tu veux, de dire zut, pour rester poli. Hein.
Oui, je comprends.
Voilà. Et parce que tu as perdu la vue, parce qu'il y a la colère. Mais quelque part, au fond de soi. Même si il y a des personnes qui ne croient pas, c'est leur droit le plus absolu, comme celui qui croit. Mais, moi je me dis, parfois, quand tu t'arrêtes comme ça et que tu réfléchis, tu te dis, puisque je crois en l'âme de ceux que j'ai aimés, mes parents, donc quelque part, je crois en un créateur. Puisque il faut bien que il se soit passé quelque chose et c'est lui qui fait perdurer ses âmes.
Oui.
Alors donc, si on se rattache à ces êtres qui nous sont chers, quelque part, on prie un créateur, une force supérieure, de nous les préserver là où ils sont.
Oui, bien
alors
sûr.
Michel qui croit en rien, est-ce que
sûr.
Et toi Michel, est-ce que je sais pas, ça te parle ce que je dis là?
Oui, ça me parle parce que moi je crois en l'essence et je crois en l'âme de ceux que j'aimais, que j'ai
bien
perdu.
Sûr.
Mais j'y crois fort là par contre.
En l'âme. L'âme.
En l'âme. Ah ouais,
voilà.
Ah ouais.
Mais l'âme, derrière l'âme, il y a quelque chose. L'âme, elle n'est pas venue, peut-être, par hasard. C'est une question, hein.
C'est la
comme
thèse
ça,
d'Éith.
Par
c'est
hasard.
La thèse d'Éith.
Par hasard, une vie qui sort d'une vie, c'est-à-dire un être humain, une femme qui met au monde un être humain. Donc, la vie donne la vie. Et c'est répétitif comme ça.
Oui.
C'est magique, il y a quelque chose au-dessus de tout ça, tu crois pas?
Ce que j'appelle la thèse déiste.
Déiste, ça c'est
Dieu.
Voilà,
Dieu.
Croire en Dieu. Mais Michel,
moi, je suis agnostique.
Voilà, elle est comme Méziane. Dommage que Méziane soit partie d'ailleurs. Hein. Méziane est agnostique. Non, c'est parce que.
Non, je plaisante.
Ouais. Non, tu es agnostique, c'est-à-dire que tu
c'est-à-dire
doutes.
Que... Voilà. Je doute, je dis pas non, je dis pas oui, je dis je ne sais pas.
Voilà. Tu crois pas aux religions, mais pour le reste.
Ah non.
Voilà.
Non.
Mais pour le reste.
Non, parce que les religions ont fait trop de mal, vraiment.
Moi, c'est pareil. C'est pareil.
Mm-hmm.
Les religions, franchement, elles ont fait et généré trop de mal.
C'est pareil, je suis entièrement d'accord.
Toutes les religions.
Oui.
Les religions monothéistes, je connais pas les autres.
Le bouddhisme n'est pas une religion, hein, c'est une philosophie.
Non, c'est une philosophie, oui.
Voilà, c'est
oui,
encore autre chose.
Oui. Paraît-il, oui.
Mais les trois qui sont prédominantes et qui se sont imposées,
oui.
C'est les trois monothéistes. Et qui se
oui,
ressemblent, hein, d'ailleurs.
Hein. Oh oui, beaucoup, oh là là. Beaucoup.
Oui. Mais finalement... tout le monde croit en quelque chose, en une force supérieure, quelque chose, on ne sait pas. Alors des
parce
fois, tu sais ce que je me dis
attaché.
Jean.
Oui.
Alors des fois, je me dis aussi, parce que je rêve beaucoup, hein, dans ma tête, hein, éveillé, attention.
Oui.
Tout à l'heure, je parlais de rêve. Mais il y a aussi le fait, un jour, je ne sais plus, j'étais avec des amis, on parlait, puis je dis, chacun donnait son idée, comme ça... de ce qu'il pensait de la vie, tout ça. Et puis moi, j'ai sorti un truc. Je dis, voilà. Alors, à l'intérieur de nous, nous avons des bactéries grâce auxquelles, eh bien, nous sommes en vie. Voilà, on reste en vie.
Mais bien sûr, absolument.
Parce que c'est grâce à ces bactéries que nous sommes en vie.
Et oui.
Parce que sans ces bactéries, on mourrait, on n'aurait plus d'immunité, plus de protection.
Et non. Ben,
alors on me dit oui, vous voulez savoir ces personnes ou avec lesquelles j'étais où je voulais en venir. Je dis ben écoutez, peut-être que nous sommes les bactéries de ce créateur, de ce Dieu, de cette force. On est à l'intérieur de ses antres, à l'intérieur de son corps.
On peut
et grâce à nous, il vit. Il a tout intérêt à nous protéger, de nous faire vivre parce que grâce à nous, il vit.
On peut tout envisager. Non, c'est vrai en plus.
Ah oui, c'est possible.
Ouais, ouais.
Et comme l'œil humain ne peut pas voir très... Enfin, on est comme les...
Ah non,
comme
non,
les fourmis ne savent même pas qu'on existe. Eh bien, nous, on n'a pas conscience qu'il existe. On ne le sait pas où il est, comment. Mais peut-être qu'il est là, on est à l'intérieur de lui, mais tellement proche qu'on ne le voit pas. C'est fou.
Mais oui. Mais quelquefois, moi, quand il y a un petit peu de vent, je me dis... Tiens, c'est l'âme de mes parents qui se promène et qui me promène
oui,
dans mes cheveux.
Oui. Moi, c'est le rêve qui m'apporte beaucoup. Parce que je ne vois pas, j'ai perdu la vue. Et quand je rêve, ben, je vois la réalité. Enfin, je vois une réalité. C'est
tu vois les
rêve.
Couleurs, tu vois les choses.
Mais c'est une forme de réalité.
Oui.
Donc, le rêve est une forme de réalité. Ça paraît bizarre, quand même. Comme
non, c'est pas bizarre. Non,
c'est pas bizarre. Elle a raison, Michel.
Non.
Et quelque part, je l'ai fait revivre. Le fait de penser à eux, je l'ai fait revivre. Je me suis retrouvé dans le rêve à côté de mon père qui faisait un orchestre. C'est bizarre, c'est vieux tout ça.
C'est un peu dur quand on se réveille après.
Pardon ? Oui.
C'est dur.
Ah ben moi, c'est deux fois plus dur parce que je suis toujours dans la nuit. Ouais. Je suis le jour et la nuit, ouais. C'est pareil. Après, j'en fais pas... tant pis, c'est comme ça. Hein. Il faut s'adapter dans la vie. On peut pas se plaindre. Gémir, c'est lâche. Donc, ben, on s'adapte ou on meurt. Il n'y a pas le choix. Et moi, je vois, je, quand je vois les gens, je les vois avec le cœur. Et parfois, le fait de voir avec le cœur, je les vois peut-être mieux que ceux qui voient, que ceux qui voient bien.
C'est vrai.
Je pense que oui, je pense que oui.
Tu es un peu le petit prince de Saint-Exupéry.
Absolument.
Mais oui, tu es notre petit prince, Jean.
Jusqu'à présent, quand je voyais, j'entendais quelqu'un qui chantait. Je disais, bon, c'est bien, tu chantes juste ou pas. C'est tout. Maintenant, quand j'entends les gens, j'arrive même, sans prétention, à mesurer la sensibilité.
Et la sincérité aussi. Et la sensibilité.
Ou alors la volonté. Oui. Ou alors l'indifférence. Mais tout ça, je ne sentais pas. Je ne sentais pas. Je vais même jusqu'à donner l'âge.
Tu as développé un sens.
Je ne me prononcerai pas ce soir. Hein. Mais les gens qui ont moins de 25 ans, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à peu près à un an près à donner l'âge. Et les gens sont surpris. Hein. C'est incroyable.
Oui, parce que tu as un sens qui s'est éteint.
Développé. Oui, il y a un qui s'est développé.
Et il y a un autre qui s'est développé. Voilà.
Oui, tout à fait.
Mais justement, les gens me disent, c'est embêtant, tu vois pas. Et moi, je leur dis, je te vois très bien.
Mais oui.
C'est ils comprennent plus.
C'est vrai. Je te vois mieux que tu ne te vois, même.
Oui, parfois, je dis, je vois mieux que les gens qui voient. Je vois loin, parce que j'anticipe. Comme je vois pas, j'anticipe les situations. Et parfois, ça paraît bizarre. Après, moi, j'ai une règle de vie. Hein. Oui. Une chose pour chaque place, chaque chose à sa place. Ça, c'est impératif.
Et puis, tu vois avec ton cœur. Tu es comme les enfants et comme les animaux. Parce que les animaux restent des éternels enfants. Ils ne grandissent pas. Donc, ils nous perçoivent avec leurs sentiments, leurs ressentis, leur cœur.
Ah oui.
Et donc, voilà comment tu vois. Et ça, c'est juste... merveilleux.
Oui.
Ben, je n'ai pas choisi.
Tu as quelque chose de plus.
J'ai pas choisi.
Tu penses avoir quelque chose de moins, mais tu as quelque chose de plus.
Je n'ai pas choisi, mais j'ai eu la chance de devenir un homme.
C'est pas forcément drôle dans le quotidien, par contre, je pense.
Ah non, mais on s'habitue, on meurt.
On s'adapte à tout, hein, dans la vie.
Ben, j'avais peur de plus jouer du synthétiseur.
Ah.
Parce que le synthétiseur, ce n'est pas comme le piano. Hein. Il y a je ne sais combien de touches. Eh bien, on a trouvé des cellules comme des œillets de classeur.
Oui.
On a passé 4 heures. Hein. J'ai un représentant Yamaha qui a passé 4 heures là-dessus. Et j'ai un stylo électronique que je posais, qui me disait c'est une valse, c'est un tango, c'est un saxo, c'est une trompette. Au début, j'en
avais
besoin.
Vive la technique, hein, finalement, tu vois.
Mais un aveugle, ça a besoin d'un espace spatio-temporel. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que maintenant, je ne vais plus. Hein. Maintenant, j'y vais directement. D'ailleurs, les gens, ça les surprend. Ouais. Parce que je démarre.
Tu m'étonnes.
Hop, ah ouais. Et ça pas comment j'ai fait.
Extraordinaire. On arrive à la fin, mon Jean. On arrive à la fin. C'est magnifique ce que tu me dis.
Et je vous souhaite une très belle soirée.
Merci, Michel.
Une bonne soirée.
Toi aussi, reviens vite. Bisous.
Bien sûr,
également.
À bientôt. Merci, Vanessa.
Je t'en prie, à bientôt, Jean. Michel. Jean aussi. Gros bisous, Michel. Gros bisous à Mohamed de Saint-Étienne, à Richard de Villemomble, qui sont en attente. Revenez demain à partir de 21h. Merci à Zach qui a réalisé cette émission, qui vous a répondu au standard. On va vous laisser avec Rayontologie, là, tout de suite, d'accord? Et puis avec des rediffs, là, tout à l'heure, hein, pour les couches tard, ou les pas couches du tout. Il y en a qui dorment le jour, hein, ça y a une rotation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h pour vos petites annonces, avec bonheur en tout cas, d'accord? Allez, à demain, je vous aime, bye!